Ce matin, on va faire quelque chose pour la lecture de la parole de Dieu. Lorsqu'on a introduit le Cantique des Cantiques, j'ai pris le temps de vous mentionner que je ne pense pas qu'il faut chercher une trame narrative très, très claire à travers le livre, d'accord? C'est plus simple, je m'excuse, j'ai une petite toux ce matin, c'est plus simple de voir le Cantique des Cantiques comme un recueil de poèmes amoureux, une anthologie avec plusieurs poèmes, qui ont été regroupés, ça a été structuré. Il y a une certaine structure, mais il n'y a pas une trame narrative très, très claire. Cette semaine, j'étais en train d'étudier le passage, tout ça, puis j'ai eu un flash. Je me suis dit, OK, si on faisait quelque chose dimanche pour la lecture des Écritures, peut-être qu'on pourrait aider, on pourrait réussir à saisir un petit peu plus le mouvement qu'il y a dans ce passage-là. Vous connaissez tous des musicals, vous savez c'est quoi des musicals? Comédie musicale, tout ça, on écoute ça. Puis dans les comédies musicales, vous savez, il y a une particularité, c'est qu'on peut passer d'une scène qui est assez réaliste, puis à un moment donné, c'est comme si tu rentres dans la tête de la personne puis tu es rendu ailleurs. Vous me suivez? Fait que tu peux avoir une scène du quotidien, puis tout d'un coup, il y a des choristes qui interviennent, puis oups, ça se met à danser ce monde-là, puis là, tu es comme plus dans la réalité. Après ça, tu retournes dans la réalité. Voyez le Cantique des Cantiques comme ça un peu. Et donc, dans le passage qu'on va lire ce matin, il y a essentiellement deux scènes, d'accord? La première scène, on va voir ensemble un deuxième rêve. Plus tôt dans le Cantique des Cantiques, on a vu que l'amoureuse a fait un rêve qui était presque un cauchemar. Attendez d'entendre celui-là, d'accord? Mais donc, il va y avoir cette scène-là de rêve. Elle commence très tôt, dès le début, en disant « j'étais endormi ». Mais mon cœur veillait. Donc, on rentre dans son rêve avec elle. Et puis ce rêve-là va parler beaucoup de ce qui se passe, de ses préoccupations. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Et donc, notre sœur Camille Rondeau va personnifier l'amoureuse. Et puis, oups, à un moment donné, elle va citer une parole de son amoureux. Puis on va entendre ça. Et à la fin de son rêve, c'est là que je vous dis, pensez à un musical. Vous avez un cœur de jeune fille qui vient puis qui intervient comme à la fin de son rêve. Les jeunes filles de Jérusalem, les filles de Jérusalem qui interviennent. Et donc, on va voir deux filles, deux dames qui vont nous lire ça comme un cœur qui intervient. Puis là, ça devient surréaliste parce qu'elle est en train de faire un rêve. Puis à la fin de son rêve, il y a comme des choristes qui embarquent dans son rêve. Puis là, les choristes, en fait, elle commence à dialoguer avec les choristes. Puis là, les choristes lui disent, « Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de si beau que ça, ce gars-là, pour que tu perdes la boule de même? » Puis là, elle leur répond, on n'est plus dans son rêve, elle commence à décrire son amoureux. Ensuite, à la fin de cette scène-là, encore, les choristes vont intervenir. Donc, on espère qu'avec cette petite mise en scène-là ce matin, vous allez sentir le mouvement et saisir un petit peu mieux la dynamique du livre. D'accord? On va écouter la parole de Dieu ensemble.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre des Cantiques des Cantiques, du chapitre 5, verset 2. Au chapitre 6, verset 3, dans l'édition Louis II. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, au chapitre 6, verset 3.
J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe.
Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit.
J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour.
Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi?
Oh, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre mille. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem.
Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi.
Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys.
Merci. On va l'ensemble dans un mot de prière. Mais Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est surprenante, ta parole est riche, Seigneur. Elle parle de l'être humain, du cœur humain, de tout ce qui se joue en nous, Seigneur, ce qui nous préoccupe, ce qui nous trouble, ce qui nous inspire, Seigneur. Ta parole nous enseigne sur l'amour, sur ton amour pour nous, mais sur l'amour que tu veux que nous ayons les uns pour les autres, Seigneur, et ta vision, Seigneur, du mariage qui est là pour te refléter. Père, je te prie de venir appliquer ta sainte parole dans chacun de nos cœurs ce matin. Viens nous rejoindre là où nous sommes, Seigneur. Interpelle-nous. Dispose nos cœurs, Seigneur, au bien. Inspire-nous, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Est-ce que ça vous a aidé à voir un petit peu le mouvement? Intéressant? Répondez pas tous en même temps. Alors ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est, comme je vous l'ai dit, le plus simple avec le Cantique des Cantiques, c'est de tirer des principes qui nous parlent de l'amour et qui nous instruisent. Et ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que l'amour occupe d'une part, l'amour remplit, mais surtout, l'amour annonce le véritable Éden. L'amour annonce le véritable Éden. J'ai intitulé le premier point « Un cœur très occupé ». J'aime le fait que la parole de Dieu décrit les choses comme elles sont. C'est une des premières choses que tu réalises lorsque tu lis la Bible, c'est qu'il y a plein de passages, des milliers de passages qui résonnent avec notre expérience à nous. Et donc, on est dans un livre où tu as l'impression que l'amour est idéalisé, puis c'est absolument fantastique. Mais en réalité, ce qu'on trouve encore une fois, c'est que l'amour préoccupe beaucoup. L'amour tient un cœur très occupé, très, très occupé. Le passage commence avec cette déclaration. « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Vous savez, on dit souvent que les rêves, ça sert à quoi? Ça sert à mettre de l'ordre un peu dans nos émotions, dans nos préoccupations. Des fois, on se réveille le matin et la nuit a été catastrophique parce qu'on a fait un de ces rêves, mes amis. Je vois Bruno qui est là, puis je ne sais pas, il voit un édifice de 4 millions d'étages qui est à monter marche par marche, je ne sais pas quoi, tu sais. Mais comprenez, il y a des choses qui se placent dans notre esprit pendant nos rêves, il y a des émotions qui se replacent, il y a la mémoire qui s'organise. Mais souvent, nos rêves parlent vraiment de ce qui nous préoccupe. Et donc, cette amoureuse commence en disant « J'étais endormie, mais mon cœur veillait. Et c'est une des réalités de l'amour. Lorsque l'amour est là dans notre vie, notre cœur n'est jamais en sommeil vraiment. Notre cœur est toujours en veille. Vous savez, les ordinateurs, lorsqu'ils tombent en mode veille, sont toujours à quelques secondes, à moins que ce soit une vieille picouille, mais sont toujours à quelques secondes de se réveiller, n'est-ce pas? Ils sont jamais en repos complet. Ils sont en mode veille. Et lorsque tu es engagé dans cette relation amoureuse, ton cœur est toujours en veille parce qu'il y a cette préoccupation de l'autre qui est là et qui est constante. Et c'est tout ce qu'elle est en train d'exposer ici à travers son rêve. À travers ce rêve-là, on va entendre les joies, les espoirs et les angoisses d'un cœur amoureux. C'est littéralement ça qui se passe dans ce rêve-là qui devient à un moment donné plus fou que nature, une espèce de délire qui s'installe dedans. Mais le cœur est constamment en veille parce qu'à travers son rêve, on découvre ses peurs. Et une des premières peurs qu'on voit dans le rêve, c'est la peur de me perdre. C'est assez étrange ce qui se passe dans son rêve. Elle dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Puis là, dans son rêve, son amoureux s'en vient. Puis tu sais, c'est son amoureux qui s'en vient et cogne à la porte. Viens, mon aimé, viens, ma bien-aimée. Puis là, il répond à une platitude. Elle dit, ben, j'ai déjà enlevé mes sneakers, je suis déjà couché, faudrait que je me lève, faudrait que j'aille ouvrir la porte, tu sais. Mais il y a deux possibilités. Soit qu'elle est en train de se faire désirer. Elle fait sa coquette, puis elle est en train de se faire désirer, puis c'est ça qui se passe. Ou soit qu'à travers ce jeu-là auquel on va assister à travers le rêve, il y a cette espèce de tension complexe qu'on vit dans toutes nos relations humaines où on veut être à l'autre et on veut que l'autre soit à nous, mais en même temps, on ne voudrait pas se perdre dans cette relation-là. D'accord? Et l'espèce de jeu qui va se passer, parce que plus tard, elle va, je veux dire, lorsqu'elle va finalement se décider d'y aller puis d'aller ouvrir la porte, pouf, il est parti. Là, c'est la crise d'angoisse, ça part après lui, puis là, on voit que c'est le délire total, d'accord? On est transporté dans un rêve un peu comme, je sais pas, la majorité d'entre vous, vous avez dû vivre ça dans un rêve à un moment donné, tu sais, quand t'es poursuivi par je sais pas trop quoi, qui veut t'éliminer, puis t'essaies de courir, puis tu sais, t'as juste l'impression que t'es plus capable de bouger dans ton rêve. C'est ce genre de délire-là qui se passe lorsqu'il est rendu en ville, puis finalement, elle voit des gardes, puis les gardes sont même plus là pour l'aider, ils lui enlèvent son voile, ils la battent. Vous comprenez, on est rendu loin, là. Et dans tout ça, on rentre à l'intérieur de ce cœur-là où il y a cette espèce de complexité, de jeu-là, où je veux aimer, je veux me donner, je veux qu'elle se donne à moi et j'ai peur de me perdre aussi dans ça. Et donc, j'ai l'impression que c'est ça. Elle veut garder aussi, dire à un moment donné aussi, regarde, c'est parce que tu ne vas pas me siffler puis je vais arriver, mon homme. Et garder une espèce d'indépendance à travers ça. Mais en même temps, elle aime. Et donc, lorsqu'elle se lève puis elle se rend à la porte, au contraire, déjà, bon, le langage est assez clair quand même, elle désire être avec lui à ce moment-là, c'est assez clair, lisant entre les lignes, puis elle va ouvrir la porte. Mais lui est parti. Il n'est plus là. Et là, c'est plus la crainte de me perdre dans cette relation-là qui l'emporte, mais c'est la peur de perdre l'autre. Alors, voyez-vous, ce qu'on voit dans le Cantique des Cantiques, ce que les Écritures nous disent partout dans la Bible, c'est que l'amour tient un cœur très occupé, très, très occupé. Parce que cette relation-là est extrêmement complexe. Ça se vit emporté par des émotions, c'est correct. Mais en réalité, il y a toutes sortes de jeux qui sont là. Et donc maintenant, elle n'a plus peur de se perdre dans la relation, elle a peur de le perdre. Puis elle part à sa poursuite, elle veut le retrouver, elle veut mettre la main sur lui. Puis comme je vous dis, ça devient une espèce de poursuite complètement folle. Alors au verset 6, on lit, « J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi. » 3 secondes avant, c'était, « Oh, une fois, je me lève. » Là, et hors d'elle. « Quand il me parlait, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. » Elle a peur de le perdre. Un cœur très préoccupé. Comme une poursuite dans un rêve, au verset 7, « Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. » Mais comme je vous dis, on est dans un délai parce que bientôt les choristes vont embarquer, vous comprenez? Donc on n'est pas dans une scène tout à fait réaliste. Le Cantique des Cantiques n'a pas été écrit pour qu'on prenne chaque scène et puis qu'on puisse identifier un moment historique où ça s'est passé. C'est pas ça le but du livre, d'accord? C'est de nous parler de l'amour entre un homme et une femme et de tout ce qui est en jeu et de tout ce qu'on devrait chercher à vivre à l'intérieur de ça. Et donc, dans son rêve, elle a fait des folies. Elle est partie dans la nuit. Reportez-vous à l'époque, elle est partie, elle s'est exposée. Elle va même jusqu'à dire, ils m'ont arraché mon voile, possiblement qu'elle a été dénudée dans son rêve. Écoutez, on en fait des rêves fous, ça va? Mais là, à la fin de son rêve, elle s'adresse au cœur des filles de Jérusalem. Puis elle dit, si vous trouvez mon bien-aimé, parce que les gardes ne l'ont pas trouvé, si vous trouvez mon bien-aimé, est-ce que vous allez lui dire toutes les folies que j'ai faites? Parce que là, si on lui a enlevé son voile, est-ce qu'elle a été déshonorée? Est-ce qu'il va encore l'aimer ou est-ce qu'il va la rejeter? Et voyez-vous, dans l'amour, il y a tout ça. La crainte de me perdre, la crainte de perdre l'autre, la crainte d'être rejetée dans la relation. Parce qu'à la fin, c'est ça qu'elle exprime lorsqu'elle dit, « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? » Elle leur suggère, « Dites-lui que je suis malade d'amour. Et si je déraisonne, c'est juste parce que je l'aime. C'est juste parce que je suis folle d'amour de lui. » Dans les Saintes Écritures, dans la Bible, Dieu nous enseigne, une des choses qu'on apprend dans la parole de Dieu, c'est à vivre dans cet univers sous le regard de notre Créateur. Et Dieu a conçu l'amour, le mariage, les rapports humains. Dieu a conçu l'univers avec un ordre. Et pour chercher à être heureux, en amour, comme dans tous les autres domaines de notre vie, il faut que cet ordre-là soit présent. Là, je vous amène complètement à l'extérieur du Cantique des Cantiques. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il y a deux plus grands commandements. Le plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce que je vois à travers ce cœur-là qui est extrêmement occupé, comme on le sait, ceux qui ont vécu des passions d'amour, puis là tu tombes en amour, puis tu sais, le cœur il est partout, puis ceux qui sont mariés depuis plusieurs années, l'amour occupe et préoccupe, d'accord? Beaucoup. Mais si je veux vivre l'amour de manière saine, je dois revenir à ce grand ordre-là. Avant mon épouse, avant mon époux, avant de chercher chez un autre être humain une espèce d'amour qui va constamment définir si je suis en train de me perdre ou si je suis en train de trouver l'amour ou en train d'être comblé, je dois avoir un premier amour, qui est Dieu. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné ces commandements-là dans cet ordre-là. Premièrement, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le seul qui mérite d'être élevé, glorifié, aimé comme ça. Mais deuxièmement, parce que c'est comme ça qu'on a été créé. On a été créé pour vivre dans un contexte où Esther, mon épouse, prendra jamais la place de Dieu dans mon cœur. Parce que mon rapport avec mon épouse va toujours comporter un certain nombre de préoccupations. Parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on est pécheurs, parce qu'il y a toujours ces insécurités-là. Mon histoire personnelle, familiale, divorce, tout ça, fait que je vous confesse quelque chose, d'accord? Premier mois de mariage, il arrive un accrochage avec Esther. Elle sait, c'était fatigant. Ça fait 22 ans qu'on est mariés, ça me vient souvent, ça me vient encore comme pensée. Là, je partais. Là. Moi, je suis un colérique. Fait que quand ça ne va pas, là, tu sais, je prends toute la place, il faut régler ça right now. Parce que tu vas me quitter, là, c'est ça? Ça ne marchera pas, là, tu vas me quitter, on va finir avec un divorce. Puis c'est ça que je vivais dans mon cœur. C'était la peur que j'avais. Au moindre conflit, je partais comme ça sur une chire. Dans mon cœur, c'est ça qui se passait. Pour que Esther et moi, on puisse construire un mariage solide où l'amour va demeurer, je dois être conscient que l'amour occupe un cœur, préoccupe. Et j'ai besoin que le premier amour de ma vie, ce soit Dieu. J'ai absolument besoin de ça. Vous rêvez de mariage? Assurez-vous que ça, c'est vraiment clair pour vous, que c'est vécu, que c'est solide. Autrement, écoutez, je ne suis pas prophète, mais je vous fais une prophétie un matin, vous allez être malheureux dans le mariage, je vous le dis. Je vous le dis parce que l'amour préoccupe énormément. Préoccupe énormément. Et la seule personne que je vais pouvoir aimer en trouvant la paix dans mon cœur, c'est la personne de Dieu. Parce que je n'ai pas à vivre tous ces jeux-là avec Dieu. Mon cœur se confie dans celui qui ne va pas jouer ces jeux-là avec moi à la cachette. Un cœur en Jésus-Christ afin de vivre l'amour de manière saine. Je vous lis un passage dans Éphésiens, dans le Nouveau Testament, la lettre aux Éphésiens. C'est l'apôtre Paul qui dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Esther et moi, le jour de notre mariage, on a scellé notre union ensemble par nos vœux. D'accord? Mais pourquoi est-ce que mon cœur serait encore préoccupé après? C'est parce qu'Esther est un être humain, puis moi aussi, puis on est imparfait. Mais là où mon cœur peut trouver la paix vraiment, le repos vraiment, c'est dans cette relation avec Dieu, parce que lorsque je me confie en Dieu et que je vais vers Dieu, puis je dis « Seigneur, j'accepte le sacrifice de Jésus sur la croix pour mes péchés, je veux faire de toi le premier amour de ma vie, le Saint-Esprit m'est donné et jamais il ne me sera retiré. » Et donc, ce que je veux retenir de ce rêve de cette jeune femme, c'est qu'il m'est décrit ici la réalité de l'amour. Et comment est-ce que je vais réussir à bâtir un mariage solide? C'est que mon cœur, qui va être préoccupé par ma relation amoureuse avec mon épouse, doit trouver un endroit où il trouve la paix et la sécurité. Et ça, c'est dans mon amour avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et si je ne place pas ça premièrement, vous allez faire des folies, je vous le dis. Vous allez faire des folies. Vous allez tenter de suivre la culture de notre époque qui va d'amour en amour, en amour, en amour, cherchant à assouvir quelque chose qu'il n'arrive jamais à assouvir. Parce qu'il demande à un être humain de remplacer Dieu dans leur vie. Revenez au premier commandement. Ensuite, vous chercherez ça. Et puis là, on arrive à cette transition-là dans notre music hall, d'accord? On passe à une autre scène, puis comme je vous dis, c'est surréaliste. Lorsqu'elle arrive à la fin de son rêve, c'est comme si elle s'adresse à des choristes qui sont là dans son rêve, et puis elle leur pose une question, et les choristes vont répondre. On va dire, « OK, tu veux qu'on rassure ton bien-aimé si on le croit sur le chemin? Tu veux qu'on dise que t'es folle d'amour? T'es folle, certain. Mais dis-nous au moins, qu'est-ce qu'il a, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a de si magnifique? Quand on bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes, quand on bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi. » Et j'ai intitulé ce deuxième point-là, ce deuxième élément-là, « Un regard empreint de grâce ». C'est vraiment intéressant ce qui se passe. Si vous êtes familier avec l'Apocalypse, vous regardez la description de son bien-aimé, puis on est quasiment rendu avec la description de Christ qui s'en vient sur son cheval, d'accord? C'est assez surréaliste ce à quoi on assiste là. Mais elle se lance comme ça dans une description, puis elle dit « Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 1000! » 10 000, je m'excuse. Ah, c'est bon, vous suivez. À ses yeux, à elle, là, il est plus beau qu'un dieu grec. À ses yeux, à elle, c'est comme il n'y a pas de moyen de le décrire. Regardez ce qu'elle dit au verset 11. « Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. » C'est complètement capoté. Je veux dire, tous les plus beaux hommes de la terre peuvent défiler devant elle. Elle n'a de yeux que pour son bien-aimé. C'est un dieu grec, c'est un Adonis, ce gars-là. Vous savez qu'il y a des compétitions du plus bel homme de la terre? Je ne sais pas si vous avez vu qui a gagné en 2014. On fait un petit sondage ici ce matin. On va vous montrer Mr. Universe 2014, OK? Ça, c'est Mr. Universe 2014. Oui, c'est lui qui a gagné. Camille n'est pas d'accord. Quand même. Puis, il semblerait au Québec que le plus bel homme du Québec, c'est C'est qui? Roy Dupuis. Ça, ça a l'air que wow! Wow! Mais j'ai des petites nouvelles pour vous. Si vous allez demander à Esther c'est qui le plus bel homme, il est même pas nerveux, le gars. Quand même, hein? Sa barbe est trop courte, puis la moustache, tu sais, manque quelque chose. Manque quelque chose. Pourquoi est-ce que je m'en vais là? Dans la série, un des éléments sur lesquels j'ai insisté, c'est ce besoin de dire à l'autre qu'on l'aime. Vous savez quoi? J'ai réalisé quelque chose de le fun cette semaine. Mes enfants se font accrocher, puis là, ils se font dire « Hey, ton père, il crouse ta mère sur le stage. » J'ai réalisé quelque chose cette semaine. C'est vraiment un privilège pour moi d'enseigner régulièrement. Puis, bon, vous connaissez mon style un peu. J'aime donner ma vie quand même en exemple, puis essayer de vivre ces principes-là. Et donc, j'ai le privilège de faire des déclarations d'amour en public, devant plein de monde, à ma femme, comme à peu près personne ici peut le faire. Puis vous demanderez ce que ça y fait. Bon, okay. Vous n'êtes pas obligé d'aller demander. Mais c'est vraiment un privilège. Et cette semaine, je suis en train de réfléchir, puis je me disais, je pense même que mon ministère public contribue à notre relation amoureuse ensemble. Je n'ai pas demandé à ce temps. Peut-être qu'on va en jaser plus tard, puis elle va dire, arrête ça. Plus jamais tu fasses ça. Mais parce qu'elle m'entend le déclarer. Alors, voyez-vous, ce que cette amoureuse-là fait, c'est pas un portrait robot. Vous savez, c'est quoi un portrait robot? On va vous montrer un portrait robot. Ça, c'est un portrait robot. Fait que quand les filles de Jérusalem viennent et ils disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a, ton bien-aimé? » Ben, il a deux yeux, centré, pas très gros, son nez, il est prolongé un petit peu. Voyez-vous, c'est pas un portrait robot qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la peinture, l'histoire en peinture, si vous connaissez le courant impressionniste, si ça vous dit quelque chose. On va vous montrer quelques toiles impressionnistes, d'accord? Je sais, on est un peu partout, vous allez voir, ça rapport. Suivez-moi. Stay with us. Ça, c'est un courant qui s'est développé dans l'histoire de la peinture où une des caractéristiques, c'est pas la seule, mais une des caractéristiques du courant impressionniste, c'est qu'on était beaucoup plus dans l'atmosphère, dans l'émotion, dans les lumières qu'un tableau pouvait dégager, que dans la précision. Là, ça a l'air pas mal précis, mais si vous aviez la toile devant vous, vous vous rendriez compte que c'est très imprécis lorsqu'on s'approche de la toile. Et donc, ce que ces peintres-là ont cherché à créer ou à recréer, c'est beaucoup plus une atmosphère, une émotion qui était là, qu'une exactitude, qu'un détail. C'est vraiment intéressant à voir. Ce que l'amoureuse est en train de faire ici, c'est une description impressionniste de son amoureux. C'est ça qu'elle est en train de faire. Elle n'est pas dans l'exactitude, le gars ne se promène pas avec 20 kilos d'or après les cheveux. Vous comprenez? On n'est pas là, on n'est pas dans le portrait robot. Elle est en train de leur décrire comment elle le voit à travers l'amour. Comment elle le regarde à travers l'amour. Et c'est définitivement un des ingrédients précieux de l'amour. Des fois, les gens vont être mal à l'aise avec ça parce qu'ils vont dire « Ouais, mais moi, je suis pas un Serge, tu sais, qui va venir en avant. Thérèse, je t'aime. » Pas à l'aise avec ça, tu sais. Puis c'est comme, tu me demandes de commencer à dire à ma femme qui est comme « Ouais, mais tu sais, je veux dire, moi, je suis un réaliste. » C'est pas facile. T'sais. J'ai l'impression d'aller à la limite dans quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. T'sais. Je vais faire un bout de chemin avec vous, d'accord? Pour ceux qui n'ont vraiment pas l'âme poétique du tout, là, on va faire un petit bout de chemin avec vous. Pensez à Dieu. Pensez à Dieu et pensez au regard que Dieu dépose sur vous. Si vous connaissez un peu la Bible, puis vous connaissez l'état du cœur humain sans Dieu, je n'offenserai personne ici en disant, on va s'entendre que Dieu ne vous a pas choisi parce que vous étiez cute. Là. Je pense qu'on va s'entendre là-dessus. C'est pas parce qu'il t'a regardé puis t'a dit « Wow, check le pétard, ça là, écoute. » Non, parce qu'il voit toute notre nature pécheresse, il voit notre rébellion, il voit nos péchés. Et pourtant, Dieu vient vers nous. Jésus-Christ vient vers nous, s'offre en sacrifice sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et il nous déclare purifiés, lavés. J'ai une autre mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, là, dans les faits, là, dans votre day-to-day, là, vous n'êtes pas encore devenu super cute. Vous êtes resté encore pas mal pécheur. Pas mal. Et donc, ce qui se passe lorsque je place ma foi en Jésus-Christ, c'est que Dieu décide, consciemment, volontairement, de me regarder avec les lunettes de la grâce. C'est ça qu'il décide de faire, c'est pas ça? Il décide de me regarder à travers son amour pour moi. Pas à travers ce que je suis dans les faits de ce que j'ai accompli. C'est la faute que tant de gens font. Ils essaient de se mettre, mes amis, super beaux, super clean, pour que Dieu dise « Wow, check le pétard, je veux l'avoir avec moi. » Mais non, tu réalises qu'on est pécheur, on va demeurer pécheur. On grandit en sainteté, mais on demeure pécheur. Fait que c'est comme un jeu où je suis pas mal, c'est pas mal perdu d'avance, ce jeu-là, vous comprenez? Et au contraire, Dieu vient vers moi et Dieu décide de me regarder avec un regard empreint de grâce. C'est à travers les lunettes de son amour qu'il décide de me regarder. Et à cause de cela, il m'aime. Puis moi, je vais grandir dans cet amour-là. Mais c'est la même chose dans l'amour. C'est la même chose en amitié. C'est la même chose dans tous les rapports humains. Mais quand tu vis avec ta meilleure amie pendant 22 ans, puis que tu couches dans la même chambre, puis tu sais, ça en prend encore plus de grâce, tu sais, de sa part, on s'entend. Donc c'est vrai aussi en amour. Et ce que je vois ici chez cette amoureuse qui est là, puis qui le décrit avec un langage très impressionniste, elle est en train beaucoup plus, d'exprimer ses sentiments à elle que la réalité de ce qu'il est. Que vous me suivez? Elle est en train d'exprimer beaucoup plus ses sentiments d'affection, comment elle veut le voir, que ce qu'il est en réalité. C'est ce que Dieu fait avec moi. Et si vous voulez vous aimer et garder l'amour présent dans une union pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, et qu'il y a encore ce regard-là pétillant, ça va prendre un regard de grâce. Et lorsque je suis en train de dire à mon épouse que je la trouve belle, puis que je commence à parler non seulement de ce qu'elle est physiquement, mais de ses qualités, puis tout ça, puis lorsque j'en parle à d'autres, ce que je suis en train d'exprimer, c'est beaucoup plus ce qu'il y a dans mon cœur que ce qu'elle est. Parce que c'est mon regard que je veux déposer sur elle qui compte. C'est ça qu'elle a besoin d'entendre. Un regard empreint de grâce. C'est de ça dont on a besoin. Et cela s'apprend lorsqu'on accepte le regard que Dieu veut déposer sur nous à travers l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que quotidiennement, je m'en vais rencontrer mon Dieu, puis je dis, comme j'ai fait ce matin, à genoux en train de prier le Seigneur dans mon salon, puis je dis, « Oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu te servirais de moi ce matin pour apporter le message de ta parole? À cause de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu déposes encore un regard de grâce sur moi, pour que je puisse être utile à ton œuvre, Seigneur. Pas parce que je mérite ça. Pas parce que je serais bon ou quoi que ce soit. Mais à cause de ton regard. Et donc, si vous essayez de construire un mariage heureux, solide, tout ça, et que l'Évangile n'est pas là pour vous apprendre, vous, à accepter ce regard de grâce, d'amour de la part de Dieu, ça va être extrêmement difficile de donner ça à l'autre pendant des années. Ah, au début, c'est vrai, tu sais, pendant le coup de foudre. C'est correct, il est bas tout, Monsieur Univers, puis tout ça. Mais après ça, tu vois d'autres choses, tu dis, tu as besoin de retrouver ce regard empreint de grâce. Là. Et puis on arrive à la dernière scène. Toute la thématique du jardin va revenir. À la fin, c'est comme si c'était en train de dire, dans le fond, je me suis inquiété pour rien. Je me suis inquiété pour rien, mon bien-aimé est avec moi, il est dans son jardin. Les versets 2 et 3 du chapitre 6, « Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. » Et donc, on a la thématique du jardin qui revient encore. Puis, on l'a vu la semaine dernière avec la noce. Le jardin illustre définitivement l'intimité dans le couple, l'intimité sexuelle, lorsque la femme va s'offrir à son époux et puis ils vont être ensemble. Mais ici, le jardin est plus que ça. C'est comme si le jardin devient englobant pour tous les deux. C'est pas simplement qu'il y a cette intimité, il y a de la sécurité qui est là. On n'est plus simplement dans l'intimité sexuelle, il y a beaucoup plus que ça. Et si on prend cette idée-là d'un jardin, on va vous montrer juste des images de jardin. Un jardin, c'est beaucoup de choses quand on y pense, d'accord? Et je crois que c'est là. Cette idée-là revient parce que ça exprime beaucoup. Ça parle de la beauté de la féminité dans toute son intimité. Ça, c'est clair, c'est là, c'est présent. Mais un jardin, c'est aussi un lieu de paix. C'est un endroit de sécurité. Lorsqu'ils se retrouvent tous les deux dans leur intimité, ils retrouvent cette paix-là, cette sécurité-là, ce repos, cet endroit où leur amour est confirmé. Et puis, ils sont comme soustraits de tout le monde autour d'eux. Ils sont seuls au monde à ce moment-là. C'est ça aussi un jardin. Un jardin, c'est un lieu qui demande de l'amour et de l'attention. C'est ça aussi. Et cette image-là est forte parce qu'elle demande des soins. Elle demande qu'on en prenne soin de cette relation-là. Puis un jardin, c'est quoi? C'est un jardin, c'est un endroit où il y a comme le côté sauvage de la nature, mais qui est un peu contrôlé, hein? C'est ça un jardin. Super beau jardin, vous avez des plantes, puis occupez-vous-en pas, vous allez voir que l'aspect sauvage revient immédiatement. Mais c'est quoi ce côté-là, sauvage et contenu, est un peu organisé. On est là, on en prend soin. Et ça demande tout ça, de cultiver l'amour entre un homme et une femme pour la vie, ça demande ça. De voir ce jardin-là comme un endroit précieux qui demande notre attention. Maintenant, certains théologiens ont vu dans cette idée-là du jardin une référence au jardin d'Éden. Ils disent, il y a une référence au paradis perdu. Je ne suis pas convaincu de ça. Pas convaincu de ça, mais en même temps, c'est intéressant d'explorer ça. Parce que la Bible est pleine de ces références-là poétiques qu'on trouve, puis il y a des allusions, ils ne diront pas, puis là, tu dois dire... Est-ce qu'il est en train de nous dire que dans l'amour, à cet endroit-là, on retrouve l'Éden? Est-ce que c'est ça qu'il serait en train de me dire avec cette thématique-là du jardin? Le jardin va revenir dans l'Apocalypse. Cette idée-là de cet endroit où il y a l'arbre de vie qui est présent. Mais en même temps, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je pense que cette image-là nous parle d'une erreur que notre culture fait énorme. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève qui vivaient certainement le cantique des cantiques. 24 sur 24, 7 sur 7. Ouh, yeah! Il n'y a pas de péché. Comprenez? C'est le cantique des cantiques tous les jours, jusqu'à ce qu'ils disent, « Mais sais-tu, Dieu, on va continuer notre cantique des cantiques sans toi. On n'a pas besoin que tu fasses partie de l'histoire, on va faire ça sans toi, puis on va faire ça à notre manière à nous. » Et à partir de ce moment-là, l'Éden a été perdu. Le paradis terrestre a été perdu. Mais une des erreurs qu'on trouve dans notre culture et une des erreurs qu'un grand nombre d'entre vous faites, c'est d'idéaliser tellement l'amour entre un homme et une femme que vous êtes convaincu que si vous pouvez avoir ça, vous allez retrouver le paradis perdu. Vous allez retrouver l'Éden. Et c'est ça que notre culture dit. Le summum du bonheur sur la terre, c'est retrouver le paradis perdu qui est ce jardin où un homme et une femme vont s'aimer puis ils vont vivre l'amour fou. Et notre société, notre culture va de jardin en jardin, de poursuite en poursuite, d'histoire amoureuse en histoire amoureuse, cherchant toujours à retrouver cet Éden-là. Et si... Comme chrétien, on élève tellement l'amour entre un homme et une femme qu'on se dit, regarde, c'est beau la vie chrétienne, c'est beau Dieu, c'est beau avoir Dieu dans ma vie, oui, c'est tout bien ça, mais le bonheur se trouve juste quand tu trouves ça, parce qu'en réalité, le bonheur sur terre, c'est là que ça se trouve. L'erreur que tu fais à ce moment-là, c'est que tu élèves l'amour. Et cet amour-là devient une idole dans ta vie qui vient prendre la place de Dieu dans ta vie. La réalité, c'est que nous sommes pécheurs. La réalité, c'est que nous sommes pécheurs et nous ne sommes pas capables. Dans nos relations amoureuses, dans ma relation avec mon épouse, même si on l'a scellé pour la vie, puis on applique tous les principes chrétiens, puis l'Évangile est là au milieu de ça, on n'arrive pas à vivre l'Éden. On demeure pécheur. Voyez-vous, les Saintes Écritures nous disent que le mariage entre un homme et une femme est là pour refléter une union plus grande à laquelle on est invité. Mes enfants devraient voir dans notre union qu'on est heureux, qu'on s'aime, qu'on prend soin un de l'autre, c'est vrai. Mais ceci devrait les inspirer pour désirer un amour plus grand encore, celui qui comble vraiment. À la fin du livre de l'Apocalypse, j'aimerais inviter les musiciens à s'avancer, on va passer à la louange. À la fin du livre de l'Apocalypse, il y a un beau passage dans Apocalypse 21. Apocalypse 22, les versets 1 à 5. Je vais vous lire les 5 versets. On est dans une... Ce n'est pas une vision apocalyptique, vous allez penser que ce n'est pas beau. On est dans une vision, justement, de la présence de Dieu. Apocalypse 22, verset 1. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, plus personne ne sera maudit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. » Dans le Cantique des Cantiques, l'amour entre un homme et une femme nous est dépeint dans toute sa beauté, dans tout ce qu'il a de plus sublime. Mais ce serait une grave erreur de partir d'un livre comme celui-là puis dire, voilà ce qui manque à mon bonheur. Si je peux posséder cela, si je peux avoir ce jardin d'amoureux où on se retrouve, mon cœur sera parfaitement comblé. Si c'est ça que vous poursuivez une chimère. Vous courez après un mirage, le jour où vous allez l'attraper, il va disparaître. Parce qu'en réalité, le mariage entre un homme et une femme, ce jardin si beau qu'on trouve là, est une image qui annonce notre union avec Dieu, qui annonce un jour où enfin nous serons réunis avec lui et nous retrouverons l'Éden véritablement. Mais pour ça, comme on l'a dit au début de l'exposé ce matin, il faut que je prenne une décision. Je dois décider que mon cœur, qui veut être préoccupé par l'amour, occupé de tellement d'affaires, va être premièrement préoccupé de trouver Dieu et d'aller trouver sa paix en Dieu. Après ça, je vais pouvoir commencer à construire un mariage, construire une union qui va servir vraiment à refléter l'amour de Dieu pour moi. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, tes desseins sont parfaits, Seigneur. C'est tellement beau ce que tu as fait en créant l'être humain. C'est tellement beau les relations humaines. C'est inspirant, Seigneur. Et lorsqu'on le lit comme ça dans un livre comme le Cantique des Cantiques, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça nous inspire, ça nous rafraîchit, ça nous rappelle que l'amour est beau des fois au quotidien. Ça peut être difficile, ça peut être lourd. Ça nous rappelle que c'est important de regarder l'autre avec un regard empreint de grâce pour pouvoir, toute la vie durant, lui dire qu'il est beau, qu'elle est belle. Mais Seigneur, pour moi, tu me rappelles ce matin que cet amour-là n'est possible véritablement que si j'ai cherché un premier amour en toi, Seigneur. Qu'aimer Esther, que prendre soin d'elle, va me demander toujours de t'aimer davantage, de te suivre, de te chérir, parce que c'est auprès de toi que mon cœur trouve son repos. J'aimerais te prier ce matin, Père, pour, pour les couples qui vivent le cantique des cantiques, puis ils disent « Wow, c'est ça qu'on vit. C'est tellement le fun qu'on en parle. On vit ça depuis des années. » Certains vivent ça. Je te bénis, Seigneur. C'est une grâce pour nous de les voir aller. Je te prie pour ceux qui ont le cœur préoccupé, le cœur lourd, occupé à tellement de désirs déçus, tellement de craintes, Seigneur. Ce matin, Père, avant de leur parler de ce qu'est l'amour entre un homme et une femme, parle-leur de toi, de l'amour qu'on trouve en toi, Jésus, auprès de toi. Je prie pour ceux, Seigneur, qui ont cru le mensonge de ce siècle, qui ont cru que cet amour idéalisé qu'on voit partout dans les médias, c'est l'Éden, c'est le paradis sur terre. Seigneur, aide-les à lever les regards vers l'éternité. Lever les regards vers toi pour attendre de toi, Seigneur, ce paradis, lorsqu'on va être réunis avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.